Quand on plaide dans un procès où le mot central prononcé par Monsieur le procureur général est celui de subversion, on peut se poser la question de savoir, après ce discours, ce qui va se passer en Algérie. Il ne se passe rien. Pas d'indiscipline. Pas de manifestation. Aucune attention n'est prêtée à l'autodétermination. Il n'y a pas plus, messieurs, de subversion dans l'Algérie confiante du 13 mai que dans l'Algérie inquiète du 16 septembre. L'Algérie vit. L'Algérie travaille. Elle vendange dans la splendeur de l'automne algérien. Puis, elle vit avec l'armée. Elle s'appuie sur elle et l'armée le lui rend bien. Il y a une symbiose extraordinaire entre le peuple et l'armée. Toutefois, il semble au peuple d'Algérie qu'il y a de tout cela un garant. Ce garant, ce n'est plus le général Salan, qui est parti, qui est loin déjà, qui est à Paris. Non, le garant, c'est le général Massu, qui commande le corps d'armée d'Alger. C'est l'homme de la bataille d'Alger, celui du 13 mai. Il est le garant, par sa présence, des engagements du 13 mai. Lorsque l'accusation parlera de légitime défense, pour contester cette légitime défense, croyez-vous qu'il soit mauvais de présenter une observation générale? Un fait est certain, et ne peut pas ne pas l'être, c'est que jamais l'Algérie n'a pris l'initiative de la subversion. Elle n'a jamais pris l'initiative de la violence. Pourquoi? Mais parce que l'Algérie était parfaitement heureuse comme elle était. Elle liquidait les séquelles, fort maigres, nous a dit le général de Gaulle, d'une rébellion qui se traînait encore dans des combats sporadiques et de plus en plus rares, en ajoutant que cela tuait moins de monde que les accidents de la route. L'Algérie n'avait aucune raison de manifester son mécontentement. Mais alors, dans ces conditions, messieurs, je pose la question, c'est évident. Comment pouvait-on donner une suite quelconque à l'autodétermination annoncée? Il fallait, pour atteindre, je le répète, au but final, l'indépendance de l'Algérie, estimée d'intérêt national, il fallait prendre l'initiative. Il fallait d'abord aviser l'armée. Il n'y avait plus de satrape. C'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas démontrer que personne n'était inamovible. On a beaucoup accéléré depuis la mouvance des satrapes grands ou petits. Si en cette occasion un mécontentement se produisait, avec 22 escadrons de gendarmerie, il était possible de signifier, de leur côté, aux civils, toujours les deux branches de l'Algérie, qu'une page, là aussi, était tournée, et que quand le général Massu s'en allait, il fallait s'incliner. Seulement, il fallait faire partir le général Massu. Pas facile. Bon soldat, vous le connaissez. Moi aussi. Il fallait lui envoyer un journaliste. Et de préférence un journaliste étranger, progressiste, rédacteur au Süddeutsche Zeitung, fort de manière à retirer une interview incendiaire, propre à faire renvoyer dès l'instant le général Massu. Comme il était absolument nécessaire qu'il partît, et le but justifie sur le plan de l'État, sur le plan du gouvernement parfaitement ce départ, il partit. À ce moment, les deux obstacles, les civils et l'armée, qui se trouvaient sur la route du chef de l'État, se sont manifestés avec plus de force et de poids que le général de Gaulle ne l'avait pensé. Nous avons eu les civils qui ont fait des barricades et l'armée qui a refusé de les attaquer. Évidemment, la situation était difficile. Et à ce moment, il n'y a rien de plus aisé, étant donné que le but était, est, et demeure fixé de dire qu'on sache partout, qu'on sache bien que je n'y reviendrai pas. Et le 25 janvier 1960, le général de Gaulle nous dit « J'ai pris la tête de l'État pour faire triompher en Algérie une solution qui soit française. Nous savons maintenant que c'était l'indépendance de l'Algérie, mais cela ne se devine pas automatiquement. Et le général Salan, moins que quiconque, pouvait le deviner. Cette phrase ne suffit ni pour calmer les civils, ni pour décider l'armée à faire évacuer le réduit. Alors, le 29, rien ne causerait plus de joie à la patrie et à De Gaulle que de voir choisir par les Algériens entre telle ou telle solution, celle qui serait la plus française. Si vous analysez grammaticalement la phrase, elle est remarquablement construite. Elle suffit à l'armée. Et elle suffit pour le général Salan, qui se dit « Le général de Gaulle est donc bien, selon les termes de mon engagement, engagement, j'y reviens, pour la solution la plus française. » Tant qu'on n'a pas, bien entendu, défini le contenu de la plus française des solutions, c'est un dialogue de sourds qui peut se poursuivre éternellement. Alors, après l'alerte, car c'était tout de même une alerte sérieuse, je n'ai pas oublié, croyez-le, les propos qui étaient de nature à réconforter le général Salan dans son gouvernement des Invalides et à lui donner l'assurance que tout continuait. C'est le 6 mars 1960 que le général de Gaulle va s'exprimer ainsi. « Si les rebelles, dit-il, déposent les armes, l'armée les prendra. Mais je n'y crois pas. Alors il faut que l'armée aille les chercher. Ce que les gens de Ferhat Abbas appellent l'indépendance n'est pas concevable. La sécession est une vue de l'esprit, mieux, une monstruosité. » Invité à l'Élysée, messieurs, le 8 juin 1960, général Salan dit au général de Gaulle « Mon général, je reste fidèle à l'Algérie française. » Et le général de Gaulle lui répondit « Vous avez bien raison. » Le général Salan ne comprendra que bien plus tard que le général de Gaulle l'a manœuvré. Le général de Gaulle pensera, lui, que le général Salan, décoré de la médaille militaire par ses soins, a vraiment tardé à comprendre. Le dialogue sans issue continue. Après être parti pour sa retraite d'Alger, il va y avoir pour le général Salan un trait de lumière au mois de septembre 1960. Il a en effet entendu une phrase dont nous trouverons l'écho un peu tardif, voyez-vous. Jusque dans le réquisitoire de Monsieur le procureur général, une phrase qui est la suivante. « Toutes, oui, toutes les tendances pourront prendre part à la campagne du référendum et aux débats qui en fixeront les conditions. » C'est une phrase dont le général Salan se souviendra lorsque le putsch du 22 avril ayant échoué, il entrera dans la clandestinité. Puis, il y a le 5 septembre 1960, l'ouverture du procès Janson, qui va être à l'origine, chose très curieuse, de l'expulsion d'Algérie du général Salan. Mais au préalable, le général Salan a eu lieu d'être bien satisfait. Et il l'a exprimé, d'ailleurs, cette joie, dans une lettre au pauvre capitaine Ferrandi. En effet, le chef de l'État s'était exprimé ainsi ce même jour. « Qui peut croire que la France, sous le prétexte d'ailleurs fallacieux d'arrêter les meurtres, en viendrait à traiter avec les seuls insurgés, avec la seule organisation extérieure de la rébellion, à traiter de l'avenir politique de l'Algérie, à les bâtir comme étant la représentation unique de l'Algérie tout entière, bref, à admettre que le droit de la mitraillette l'emporte d'avance sur celui du suffrage. Je vous répéterai, monsieur le procureur général, cette phrase si juste et si chargée de sens. Et il ajoutait, « Et pour qui me prennent-ils moi-même ? Ceux qui s'imaginent que je pourrais conférer avec les chefs de la rébellion, tant que les meurtres continuent, de sorte qu'à mesure de la conversation avec eux, on viendra m'annoncer que de malheureux musulmans ont été encore égorgés dans les douars de l'Algérie ou les faubourgs de la métropole, qu'on a jeté une grenade sur un marché kabyle, ou qu'on a tiré sur des femmes et des enfants à la baignade, sur les plages, qu'on a exécuté des troupiers pris au combat, qu'on les a exécutés sous une parodie de justice, et que telle petite fille française serait massacrée dans son lit. Allons, allons, quand on donne la parole au couteau, on ne peut pas parler politique. » Vous pensez, messieurs, combien le général Salan, qui venait d'arriver à Alger, était heureux d'un langage si énergique. Malheureusement, il n'avait pas observé que dans le même texte, il ne s'agissait plus de la remise des armes, mais de la destination des armes, ce qui est sensiblement différent. C'est alors, et pour ce motif, qu'il est expulsé d'Algérie et obligé, si je puis dire, d'habiter à Paris au cœur d'une garnison, encore que les membres de la garnison n'aient pas d'uniforme, mais des vêtements appelés communément bourgeois. Général Salan se rend alors en Espagne, où il restera, et où il résidera d'abord à Saint-Sébastien, ensuite à Madrid, et à Saint-Sébastien certains jours. En raison d'interventions diverses auprès du gouvernement espagnol, il habitera aussi au cœur d'une garnison, mais celle-là en uniforme. Le voici à Madrid, et il suit de loin le déroulement des événements. J'appelle l'attention du haut tribunal militaire sur un fait qui me paraît revêtir une grande importance, sur le comportement réel du général Salan lors des journées de décembre 1960. Vous savez, en décembre 1960, il va être possible pour le président de la République d'éviter la procédure de la révision constitutionnelle prévue par la Constitution. Cette révision était prévue et M. Michel Debré avait répondu en sa qualité de Premier ministre à une question écrite, ceci. Que les départements d'Algérie et ceux des Oasis et de la Saoura font partie de la République au même titre que les départements métropolitains. La Constitution n'a jamais prévu la possibilité pour les départements de se transformer en territoire d'outre-mer, ni à plus forte raison de devenir membre de la communauté. D'autre part, aucune transformation en état de communauté, aucune sécession de la République, ne sont donc constitutionnellement possibles pour les départements et territoires faisant actuellement partie de la République française. Je suis heureux, messieurs, et je ne le cacherai pas, d'avoir retrouvé ce texte. Pourquoi ? Parce que quand M. Michel Debré est venu à la barre, il a fait une impression profonde. La défense a subi une cuisante défaite, une déroute extraordinaire. Le haut tribunal militaire voudra bien comprendre qu'il m'était impossible, même avec la bienveillance très grande de Monsieur le Président, que je remercie, de transformer votre audience en une sorte de dîner-débat ou de conférence contradictoire avec Monsieur Michel Debré. Il était témoin et non adversaire. J'étais avocat et non partisan. Mais à la lumière des déclarations qu'il nous a faites et que vous avez dans le souvenir, cette réponse à une question écrite que je viens de vous lire mérite au moins une réflexion sur le fonctionnement du cerveau de M. Michel Debré. En effet, c'est le référendum qui va donner le moyen de contourner l'obstacle déclaré impossible par M. Michel Debré de la réforme constitutionnelle. Ainsi que vous le constatez, le plan Le terrible plan continue à s'appliquer avec une rigueur exemplaire et en dépit des affirmations de façade de M. Debré. Général Salan suit les étapes, plein de chagrin et de tristesse à Madrid. Et c'est à ce moment que vont se produire en Algérie des manifestations extrêmement violentes et pénibles aussi. Pour la première fois depuis que l'Algérie existe, un voyage du chef de l'État ne va pas parcourir les grandes cités, mais d'humbles bourgades. Et pour la première fois, ce qui est encore plus grave, des instructions sont données aux forces de l'ordre pour que ceux qui vont venir assister au passage du chef de l'État ne puissent pas se mêler entre communautés. Si l'on y réfléchit, cela est parfaitement normal et préfigure justement le sentiment qu'il faut donner à la communauté musulmane de sa volonté de participer non plus à une Algérie dans la France, mais à une Algérie algérienne, chacun de leur côté, et déjà s'invectivant. Que fait le général Salan? Est-ce que, messieurs, le général Salan, à ce moment, a emprunté l'avion pour venir en Algérie donner son sens et son unité à la protestation populaire qui déferlait dans les rues d'Alger? Vous savez que non. Il est resté à Madrid. Alors, messieurs, la question devient très grave. Il ne faut vraiment pas nous le dissimuler. La question devient extrêmement grave pour la réalisation du plan prévu par le général de Gaulle. Elle le devient si nous réfléchissons que le 16 septembre, que décembre 60, que le référendum du 8 janvier 1961 ont été sans aucun effet sur le calme profond de l'Algérie, sur le calme réel de l'Algérie, et que l'on ne note aucun affrontement des communautés, et que l'on en est toujours là, messieurs, le 10 avril 1961, soyons justes, et affirmons qu'à la place du chef de l'État, on peut se demander quand tout cela finira. Mais pourquoi les nouvelles les plus extraordinaires et les plus menaçantes données à cette population ne font pas sur elle une impression appréciable? Pourquoi? Oh, messieurs, c'est bien simple. C'est parce que l'armée a subi un grand nombre de mutations, mais elle en a l'habitude. Il y a l'Allemagne, puis la métropole, mais finalement on arrive à déplacer les mêmes et tout cela ne sert à rien. L'armée continue à assurer son office dans les conditions les meilleures et les plus satisfaisantes. C'est vraiment une énorme entreprise que d'arriver à venir à bout de l'Algérie dans la France. Nous sommes obligés de le constater. Et au fond, quel est le plus gros obstacle? Sont-ce les civils d'Algérie ou est-ce l'armée? Eh bien, il a été jugé que c'était l'armée. C'est malgré tout l'armée qui est le plus gros obstacle. Et c'est là qu'il est absolument indispensable, si l'on veut poursuivre l'exécution du plan, de prendre des mesures immédiates. J'avais demandé au haut tribunal militaire de bien vouloir ordonner que le général Schall comparût à son audience. Le haut tribunal militaire s'est estimé tenu par les indications fournies par M. le garde des Sceaux, tenant à la qualité de détenu de Maurice Schall, et au fait a noté le haut tribunal dans son jugement qu'ayant été condamné, il ne pouvait déposer qu'à titre de simple renseignement. Ah, je crois, messieurs, que de tous les témoins que j'aurais voulu faire entendre, et alors que j'ai véritablement importuné votre haut tribunal, et je m'en excuse avec mes demandes, je crois que c'était là l'audition la plus importante, comme je vais m'efforcer de vous le démontrer très brièvement. Pourquoi, messieurs, au lendemain du putsch, un journal du matin sous la signature d'un éminent journaliste qui s'appelle M. Robinet a écrit ces mots, général Schall, que l'on est stupéfié de trouver dans cette affaire. M. Robinet était donc absolument stupéfait qu'un général qui avait démontré au moment des barricades son loyalisme à l'égard du pouvoir central qu'un général qui avait reçu un poste important à l'OTAN, qu'il avait d'ailleurs quitté en toute dignité pour se consacrer à des travaux d'ordre privé et non pas à écrire sur la cause de nos désastres, que ce général, par ailleurs d'esprit mesuré, quoique énergique, prudent, intelligent, ait pu se lancer dans une aventure telle qu'elle stupéfiait M. Robinet. Voilà, messieurs, ce Calabar, avec quelques informations supplémentaires, comme vous l'entendez, j'aurais pu demander au général Challes. Je lui aurais demandé quels avaient été avant le putsch, avant ce départ dans des conditions romantiques, elles aussi, de la base de Creil, je crois, sans beaucoup de difficultés d'ailleurs, pas plus que pour atterrir. Non, pas de difficultés essentielles. Je lui aurais demandé quels avaient été les hommes avec lesquels, avant ce putsch, il avait pris des contacts. Mais alors, je m'excuse, messieurs, avec tous, quels hommes politiques lui avaient donné de bons conseils, c'est-à-dire de faire une opération exclusivement militaire, n'y mêlant en aucun cas la population d'Algérie, ni la métropole, et en quelque sorte d'offrir au général de Gaulle l'Algérie française sauvée par ses soins. Je pense que le général de Gaulle, dans une telle hypothèse, serait entré, et à juste titre, dans une de ses colères légendaires, puisque ce qu'il voulait qu'on lui offrît, c'était le contraire. Il eût été intéressant, monsieur le Président, de demander cela à Maurice Challes. Puis nous lui aurions demandé si parmi tous ses visiteurs, car le général Challes a reçu vraiment des visites à un rythme accéléré, un peu avant le 11 avril, s'il n'y avait pas également les représentants d'une puissance étrangère, alliés de la France, mais ennemis de M. Debré, j'ai nommé les États-Unis d'Amérique, et si l'ensemble des promesses et des concours ainsi obtenus donnait au moins une explication satisfaisante pour l'esprit de son départ et de son action pendant 4 jours. C'est cette explication satisfaisante que j'aurais bien voulu que le haut tribunal militaire entendît, mais était-il bien nécessaire, au fond, de faire accomplir à Maurice Challes un si long déplacement? Je crois que le haut tribunal militaire a été assez sage de s'incliner devant le désir exprimé par M. le garde des Sceaux, parce qu'il y a ici un texte qui remplace la déposition du général Challes, et qui la remplace aisément. C'est la conférence de presse du général de Gaulle du 11 avril. On dit qu'en cas de sécession, l'Algérie connaîtrait le chaos et la misère. C'est hélas bien possible. On dit aussi que la Russie ou l'Amérique s'efforcerait alors de prendre pied en Algérie et d'y prendre la place de la France. Je dirais en ce cas qu'à toutes les deux, je souhaite d'avance bien du plaisir. Et deuxièmement, la France considérerait avec le plus grand sang-froid une solution telle que l'Algérie cessât d'appartenir à son domaine, solution qui en d'autres temps aurait pu paraître désastreuse pour nous, vous voyez, messieurs, mais qu'aujourd'hui, nous considérons avec un cœur tranquille. D'un cœur tranquille, cela d'ailleurs rappelle des souvenirs historiques, et je m'abstiens de les évoquer pour ne pas allonger ce débat. Il y a juste l'adjectif qui change. Mais néanmoins, messieurs, un fait est certain. Les gages sont retirés le lendemain, toutes les promesses s'en vont en fumée, et l'échec est en vue. Je ne savais pas comment on avait arrêté le putsch. Pour savoir comment on l'avait organisé, je savais. Mais je ne savais pas comment on l'avait arrêté. Maintenant, je le sais. La clé est dans le dossier du haut tribunal militaire, qui n'a qu'à lire la déposition du colonel Georges de Boissieu, la compléter avec celle du colonel Buchou, et ainsi le haut tribunal militaire s'apercevra que vraiment, tant dans le déclenchement que dans l'arrêt, Aucun accident de parcours, si j'ose m'exprimer ainsi, n'était à redouter pour le pouvoir. Mais, messieurs, de même que le général Salan n'avait pas compris, avant le mois de septembre 1960, que le général de Gaulle était pour l'indépendance de l'Algérie, de même, le général Charles n'avait pas compris ce qui lui arrivait lorsqu'il avait vu une à une se dissoudre comme sucre fondu, le colonel de Boissieu tenant la carafe, toutes les espérances qu'il avait mises dans cette entreprise. Pourquoi avait-il été choisi? J'ai déjà donné une indication, il y en a une autre. Le général Salan avait moins de prestige que le général Charles, car le général Charles, ayant traversé une passe de loyalisme, avait de ce fait beaucoup plus d'autorité. C'est ce qui vous explique que le général Salan, comme monsieur le procureur général a bien voulu le reconnaître, n'a eu aucune part à la préparation du putsch, bien entendu. Quand le général Salan est arrivé le dimanche matin à Alger, le 23 avril, avec le coup d'œil dont d'illustres témoins nous ont dit qu'il était remarquable, qu'en Indochine, sur le plan militaire, il avait fait merveille, et qu'en Algérie, sur un plan non seulement militaire, mais général, il avait également fait merveille. Il n'a fallu au général Salan que d'aller en voiture de Maison-Blanche à Alger pour s'apercevoir que la situation n'était pas une situation plaisante. C'était un aimable désordre dans lequel on apercevait quelques légionnaires au coin des rues et puis quelques camions ou des recrues à cheveux un peu longs criaient « Vive la quille !» sur l'air des lampions, ce qui est une atmosphère déplorable à tous égards. L'OS est une création spontanée, mais elle ne s'est pas créée du tout comme M. Morin le croit. M. Morin ne sait rien, d'ailleurs, mais c'est pour cela qu'il est sûrement un très bon préfet. L'OS est née à Madrid, et elle est née sans le général Salan. Elle est née à Madrid, entre 5 ou 6 exilés originaires d'Algérie, qui ont fondé l'OAS. Ils n'avaient avec le général Salan que des rapports espacés, à l'exception d'un seul, Jean-Jacques Susini. Et comme je n'aime pas, messieurs, pour le principe, je vous l'affirme, poser à des témoins des questions oiseuses, je n'ai pas demandé à M. Debré sa correspondance avec M. Susini, qui n'offrait qu'un intérêt éventuellement historique. Général Salan va partir pour Alger, il vous a dit, parce que si je n'y étais pas allé, on m'aurait accusé de trahison. C'est la raison pour laquelle il est ici, en dehors de son engagement du 13 mai. S'il n'était pas allé à Alger, on aurait crié à la trahison, en constatant qu'un général d'armée, qui avait tant de fois proclamé son attachement à l'Algérie, ne venait en Algérie au moment où il se passait des événements capitaux pour son avenir. Il a marché au canon, si j'ose m'exprimer ainsi. Et au soir du 25 avril, quand ils s'éloignent tous les deux, dans la nuit, Jouot et Salan, ayant d'ailleurs quitté Maurice Charles comme Zeller, en pleine dignité, ayant parfaitement compris les uns et les autres, en vieux soldats, bien sûr, en vieux camarades aussi, et mobiles nécessairement nobles, qui dans chacune des attitudes existent, et qui font qu'ils adoptent précisément cette attitude. Quand ils s'éloignent tous les deux dans la nuit, j'ose dire, messieurs, qu'alors, personne ne sait comment et de quoi l'avenir sera fait. Je dis pour ma part, comme je le pense très sincèrement, je crois que je ne le pense pas seul, que quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur le général Salan, cette attitude a une noblesse, une grandeur certaine. Voyez-vous, monsieur le procureur général, je parle très objectivement. Il ne s'est encore rien produit d'irréparable. Je dis que c'est une attitude toute de grandeur et de noblesse. Elle émane d'un général d'armée qui a voulu se replacer, dans le plus difficile des combats, au rang d'un misérable clandestin. Quelle est donc la presse qui est accoutumée de dire depuis 40 ans que les généraux meurent dans leur lit et les soldats au feu, entretenant ainsi cet antimilitarisme latent qui nous a fait tant de mal. Qui donc pourra dire désormais qu'en rentrant en Algérie pour rester fidèle à un serment, un général français n'expose pas sa personne? Vous n'avez pas dit heureusement, comme l'un de vos prédécesseurs, monsieur le procureur général, que le serment n'avait qu'une valeur relative, mais vous avez légèrement modifié le contenu du serment du général Salan. Vous avez dit qu'il s'agissait de rester fidèle à l'union des deux communautés. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un serment de rester fidèle à l'union des deux communautés qu'a prêté le général Salan. Non, c'est le serment que l'armée française, garante de l'Algérie française, doit la garder à la France et la garder française, ordre du jour du 6 juin 1958, signé Charles de Gaulle. Alors, il ne faut pas, par un procédé parfaitement habile, modifier la portée, le sens de l'engagement précis qui a été pris. Non, monsieur le procureur général, ce n'est pas l'union entre deux communautés, c'est l'Algérie dans la France et dans la République. C'est cela ce motif essentiel, c'est le mobile, c'est le seul, vous le croyez? C'est vrai, c'est malgré tout insuffisant.